Le journal de Sébastien Legénie. Bonjour Sébastien.
Bonjour Ali, bonjour à tous. À la une ce matin, la drôle de grève de la SNCF. Comme prévu, les syndicats ont voté pour un mouvement dur, un mouvement par intermittence, afin de tenir le plus longtemps possible. Il va falloir cocher les cases sur votre agenda. Explications et réactions dans un instant. Dans l'affaire Skripal, le ton monte entre l'Est et l'Ouest, mais les sanctions concrètes restent limitées ou très symboliques. Hier, Emmanuel Macron a boudé le pavillon de la Russie au Salon du Livre. La Russie qui vote dans deux jours, 7-9 spéciale élection présidentielle en direct de Moscou.
Juste après le journal, suite de cette matinale en direct de Moscou avec Nicolas Demorand, Bernard Guetta et de nombreux invités. Et à 8h45, retour à Paris avec le carrefour du 7-9, la revue de presse Sonia De Villers, Thomas Legrand et le billet de François Morel.
Et dans ce journal, une question à notre correspondant sur place. La Russie est-elle toujours un colosse au pied d'argile? Son économie dépend encore totalement du pétrole. Au menu également, quand on découvre que l'Assemblée nationale paye les frais d'obsèques des députés, une information France Inter. Quelles sont les villes les plus cyclables en France? Le palmarès dans ce journal. Et puis les Français de plus en plus amateurs de petites mousses. On boit 32 litres de bière par an. Le houblon bio notamment fait des émules.
France Inter.
Attention, conflit marathon en perspective, c'est un nouveau concept de grève que les syndicats de la SNCF ont mis sur pied. Une grève par roulement, en quelque sorte, pour faire durer le mouvement au maximum. Ça commencera le 3 avril prochain, deux jours de grève suivis de trois jours travaillés, suivis de deux jours de grève, et ça ainsi de suite jusqu'à la fin du mois de juin, le 28 juin exactement. Au total, 36 jours de grève prévus. Une méthode inédite, il faut dire que l'équation était quasi impossible à résoudre, faire pression sur le gouvernement sans se mettre à dos les usagers tout en évitant que ça coûte trop cher aux cheminots. Bref, il a fallu innover, comme l'explique Roger Dylan Seger du syndicat LUNSA.
C'est le ministère qui nous oblige à faire évoluer nos stratégies. La méthode est celle de pouvoir s'inscrire dans la durée, parce qu'effectivement le processus va durer un certain temps. Avec cette méthode de deux jours de grève reconductible sur une période de cinq jours, ça nous amène à tenir les agents en grève plus longtemps et à avoir un levier plus important par rapport aux négociations qui doivent effectivement s'engager. Et en l'occurrence, entamer un mouvement fort pour s'essouffler trop rapidement, on est convaincu que ça ne pourrait pas aboutir. Donc voilà, il faut essayer de trouver les moyens, d'une part, et très honnêtement, pour que ça coûte le moins cher possible aux cheminots, et que c'est le plus d'impact possible.
Roger Dylan Seger de l'UNSA, le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, lui a estimé que le choix de la grève est, je cite, un peu décalé par rapport à la concertation qui est engagée. Et puis même son de cloche côté gouvernement, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, qui juge très durement le choix des syndicats.
Je peux que déplorer cette décision qui manifestement vise à pénaliser les usagers. Et je voudrais dire que cette posture, pour moi, elle est incompréhensible. Parce que j'ai annoncé que j'allais conduire deux mois de concertation. On a déjà tenu 25 réunions avec les organisations syndicales. Une cinquantaine est encore prévue jusqu'à fin avril. Il y a énormément de sujets à discuter, de grains à moudre, je dirais. Donc moi, je souhaite poursuivre les négociations.
Elisabeth Borne, la ministre des Transports. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Une drôle de grève, on le disait. Les cheminots vont donc arrêter le travail, mais dans le même temps, les syndicats et le gouvernement vont continuer de discuter.
Oui, cette stratégie choisie par les syndicats a au moins l'avantage de laisser une chance à la négociation. S'il peut y en avoir une avec cette méthode, on rebalance clairement la balle dans le camp du gouvernement, explique l'UNSA, suivi sur cette ligne par la CFDT. L'État connaît le calendrier, il sait que si les concertations ne mènent à rien, qu'elles tournent au dialogue de sourds. Derrière, deux jours de grève pourront être déclenchés rapidement. A contrario, l'exécutif sait aussi qu'il a les moyens d'arrêter tout ça. Il lui faudra, dans ce cas-là, jouer le jeu d'un vrai dialogue, sans quoi c'est le gouvernement qui portera la responsabilité du blocage, préviennent les syndicats.
Alors reste un autre acteur du dossier, la SNCF, le groupe ferroviaire pris entre deux feux, qui promet une chose, Maxime, tout faire pour faciliter la vie des voyageurs.
Oui, tout sera mis en œuvre pour limiter les désagréments. Promis, Guillaume Pépi assure qu'un plan de circulation complet sera publié tous les soirs à 17h pour savoir exactement quels seront les trains qui circuleront le lendemain. Par ailleurs, un système de SMS et d'email devrait être également mis en place pour prévenir les voyageurs la veille, y compris lorsque leur train est maintenu. Sur ce point, la SNCF sait qu'elle n'aura pas le droit à l'erreur, surtout après les bugs de l'an dernier.
Maxime Debs du service économique de France Inter, merci. Et puis si vous voulez y voir plus clair sur vos prochain trajet en train. Vous trouverez sur notre site le calendrier des jours de grève et des jours travaillés à cocher dans votre agenda. Donc c'est sur franceinter.fr. Encore un mot des manifestations d'hier. La mobilisation chez les retraités qui a été relativement forte, entre 39 000 et 68 000 manifestants dans la rue, selon un comptage de l'agence France Presse. Mobilisation en recul, en revanche, pour les personnels des EHPAD, 22% de grévistes, 10% de moins qu'il y a deux mois.
Et puis Sébastien, jusqu'où les Occidentaux iront-ils dans l'affaire Skripal ?
Certes, Londres, Paris, Berlin et Washington affichent un front commun contre Moscou. La Russie, accusée d'être le seul responsable plausible de l'empoisonnement de l'ancien agent double. Pour autant, les sanctions sont à ce stade très mesurées. Emmanuel Macron a promis que des mesures interviendraient la semaine prochaine. Mais en attendant, seul geste de défiance à l'égard du Kremlin, très symbolique. Le chef de l'État a boycotté hier le pavillon officiel russe au Salon du Livre. Un geste très mal perçu par les écrivains. Leur reportage d'Ilana Moriouzef.
Ni vodka ni blinis hier soir sur le pavillon russe, mais des livres, pour la plupart écrits par des auteurs qui n'ont jamais ménagé le pouvoir. Alors non, ils ne comprennent pas qu'Emmanuel Macron les ait boudés.
On regrette beaucoup, hein, parce qu'il ne faut pas mêler les politiques et la culture.
Yevgeny Riznichenko est l'organisateur du salon côté russe. Il a du mal à cacher son amertume.
La visite du président aurait montré sa juste appréciation du travail effectué côté français et côté russe. Le fait qu'il ne soit pas venu montre que ce travail n'a pas d'importance pour lui. C'est son droit.
Mais les plus en colère sont peut-être des Français, comme la grande traductrice et professeure de littérature russe, Anne Koldefi-Focard, qui a aidé à faire la liste des auteurs invités.
Là, il y a un mélange que je ne comprends pas très bien. Qu'on ait des motifs politiques, je peux très bien comprendre, mais là, il s'agit de littérature, il s'agit de culture. Et je trouve que par simple politesse, vis-à-vis des auteurs qui étaient là, ça aurait été bien que le président passe.
Les scandales politiques, ça va, ça vient, relativise l'auteur jeunesse Alexandra Litvina. Elle n'a qu'un regret. Emmanuel Macron me plaît beaucoup, dit-elle. Il est mignon. J'aurais été contente de le voir.
Ilana Moriouzef, allez, direction Moscou. L'on retrouve sans plus attendre notre équipe du 7-9 en direct de la capitale russe pour l'élection présidentielle de dimanche prochain. On l'a dit depuis 7h ce matin, Vladimir Poutine est ultra favori. Sans réel adversaire à part l'abstention, mais le géant russe a toutefois son talon d'Achille, c'est l'économie. Claude Brouillot, bonjour. Vous êtes notre correspondant permanent à Moscou. L'économie russe donc n'est pas au beau fixe, loin de là, car le pays n'a jamais su se défaire de sa dépendance au pétrole.
Oui, le pétrole, une richesse qui peut rendre malade. La moitié des recettes de l'État russe provient de cette manne. Et pour garantir le remplissage des caisses, Vladimir Poutine a décidé fin 2017 de prolonger la réduction relative de la production de l'or noir pour le rendre encore plus précieux et cher. Auparavant, entre le début de son règne en 2000 et durant une quinzaine d'années qui ont suivi, Vladimir Poutine a fait en sorte que la production de pétrole russe soit multipliée par deux. Mais cet argent n'a pas servi à réduire les inégalités ou à mener de véritables réformes sociales. Il a été utilisé surtout pour financer la défense et la sécurité de la Russie. Résultat, pas de véritable politique économique pour développer d'autres secteurs de l'économie. Les excès bureaucratiques et le ralentissement des investissements étrangers dus aux sanctions ont fait le reste, avec un risque principal aujourd'hui, que le développement de la production du pétrole de schiste américain ne se poursuive et vienne diminuer les recettes du Kremlin et rejeter la Russie dans la crise.
Claude Brouillot, correspondant à Moscou, merci beaucoup. Suite du 7-9 spécial dans un peu plus de 5 minutes maintenant. À pied, en charrette, à moto, ce sont des milliers de civils qui fuient la Ghouta depuis hier en Syrie. 20 000 personnes auraient déjà décidé de quitter l'enclave rebelle aux portes de Damas, pilonnée depuis 2 semaines par le régime de Bachar el-Assad, le régime qui aurait pris le contrôle de 70% du territoire.
Et on revient en France avec cette information France Inter sur les obsèques des députés.
Où l'on découvre que les frais dans enterrements de nos élus au Palais Bourbon sont depuis toujours pris en charge, payés par le contribuable. Une allocation, un avantage que l'Assemblée nationale a décidé de restreindre. Les précisions de Cyril Gradiani.
Jusqu'à mercredi, les députés bénéficiaient d'un système quasi unique. Leurs frais d'obsèques étaient pris en charge par l'Assemblée nationale et pouvaient atteindre 18 000 euros. Cette allocation était aussi attribuée en cas de décès de l'époux, l'épouse, des enfants, et ils en bénéficiaient même après avoir quitté leur siège. En 2017, le versement de ces frais funéraires a représenté 573 000 euros. Mercredi, sur proposition des questeurs, ces députés chargés des comptes de l'Assemblée qui cherchent à faire des économies, un nouveau système a été proposé, se référant à celui des anciens députés européens. Désormais, c'est un forfait de 2350 euros qui sera attribué, montant maximal de la prise en charge. Les députés, anciens députés, conjoints et enfants pourront toujours en bénéficier. À la présidence de l'Assemblée, même si on concède que dans l'opinion publique, les Français auront bien du mal à comprendre cet avantage, on souligne l'économie réalisée, près de 400 000 euros.
Cyril Graziani du service politique de France Inter. Au Parti socialiste, Olivier Faure, le président du groupe parlementaire Nouvelle Gauche, arrive largement en tête de l'élection, à la tête du parti, avec plus de 40% des voix. L'ancien porte-parole du gouvernement Hollande, Stéphane Le Foll, lui, est arrivé deuxième. Il fera ce matin une conférence de presse. Stratégie à long terme ou consigne de vote ponctuel, Marine Le Pen a surpris en tout cas hier en appelant à voter pour le candidat Les Républicains à Mayotte lors de l'élection partielle de ce week-end. Une marque d'ouverture inédite que refusent pour l'instant les LR. Le verrou de Bercy va-t-il sauter? A priori, pas tout de suite. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, est favorable à l'amélioration de ce système permettant à Bercy de poursuivre les fraudeurs au fisc sans en passer par la justice. Mais une amélioration à la marge, le parquet de Paris pourrait déclencher une enquête, mais au-delà d'un certain seuil de fraude seulement. Et maintenant cette question, où fait-il bon rouler en vélo? Strasbourg, Grenoble, Nantes, La Rochelle, voilà quelques-unes des villes les plus cyclables en France. C'est un premier palmarès établi par la Fédération des usagers de la bicyclette auprès de 316 communes. La fédération qui, pour établir ce classement, ce baromètre, a directement posé la question aux premiers concernés, c'est-à-dire les cyclistes. Sandy Dauphin.
Strasbourg arrive en tête dans la catégorie agglomération. Pour les villes moyennes, Illkirch-Graffenstaden dans le Bas-Rhin. Quant aux villes de moins de 20 000 habitants, La Flèche dans la Sarthe et Sceaux dans les Hauts-de-Seine montent sur le podium. Au total, 113 000 cyclistes ont répondu au questionnaire.
On a voulu savoir le ressenti des Françaises et des Français sur la cyclabilité de leur ville.
Olivier Schneider préside la Fédération des usagers de la bicyclette. Pour lui, une ville cyclable, c'est...
C'est une ville où les parents laisseraient leurs enfants aller à l'école à vélo. C'est pas la quantité de pistes cyclables, mais c'est leur conception qui est importante. Et au-delà de ces pistes cyclables, il faut qu'on puisse stationner son vélo, il faut que les infrastructures soient respectées par les automobilistes.
Mais globalement, ce baromètre montre que les cyclistes sont insatisfaits. Seules 21 villes sur les 316 qui ont pu être prises en compte dans ce classement obtiennent une note supérieure à la moyenne.
90% des répondants trouvent qu'actuellement c'est trop dangereux pour les personnes âgées et pour les enfants de faire du vélo. Or, ce sont les deux catégories les plus touchés par la sédentarité qui auraient besoin de faire du vélo autour de chez eux. Donc il y a un vrai déficit là-dessus.
Aujourd'hui, seuls 2 à 3% des déplacements se font à vélo, alors que les trois quarts de nos trajets font moins de 5 km.
Samedi, Dauphin, on arrive tout droit au sport et aux Jeux paralympiques de Pyeongchang en Corée du Sud. Anthony Chalençon décroche le bronze en biathlon 15 km non-voyant. Benjamin Davier, lui aussi, décroche une nouvelle médaille aux Jeux paralympiques en argent, le biathlon. Et puis également une nouvelle médaille pour la snowboardeuse Cécile Hernandez. Elle a décroché l'argent sur le banquet slalom. Cela fait 16 médailles pour la France. Filles qui gagnent, on en redemande. Ce sera peut-être le cas ce soir avec le 15 de France féminin. Les Françaises pourraient faire le grand chelem ce soir pour la fin du tournoi des Six Nations si elles l'emportent face aux Galloises.
Merci Sébastien. Il est 8h14 et la suite du journal avec vous donc.
Et on termine avec quelques notes de houblon. La bière est à la mode en France. Les Français qui boivent en moyenne 32 litres de bière par an, soit 2 litres de plus qu'il y a 4 ans, signe de ce renouveau. La France Bière Challenge se tient aujourd'hui à Paris, première compétition nationale qui va récompenser les meilleures bières françaises. Car dans notre pays, la filière brassicole est en pleine expansion avec de plus en plus de brasseries artisanales. Yann Gallic.
C'est une petite brasserie artisanale dans le 19e arrondissement de Paris, un hangar où le parfum de l'orge se mêle à celui du houblon, avec une légère odeur de fermentation qui s'échappe des grosses cuves en inox.
Nous voilà à l'intérieur de la brasserie. Là, on fait un peu plus de 2000 litres par semaine.
Depuis 2015, Édouard Jaladehaine est le gérant de la brasserie de lettres qui emploie 3 salariés. Ici, on fabrique une bière entièrement bio qui privilégie les circuits courts.
Nous, on essaye de faire du local, c'est-à-dire de ramener du houblon vers Paris, de ramener de l'orge plus proche et d'essayer d'arriver à des bières de terroir, de se réapproprier ce qu'on mange, ce qu'on boit, et d'essayer de bien faire les choses.
En France, il y a aujourd'hui près de 1200 brasseries, un chiffre qui a doublé au cours des 3 dernières années, explique Elisabeth Pierre. Elle est zytologue, c'est-à-dire spécialiste en bière.
Il se crée à peu près environ une brasserie par jour en ce moment en France. De plus en plus de jeunes se tournent vers ce métier de brasseur et de plus en plus d'agriculteurs vont se mettre effectivement à diversifier leur production en ouvrant une brasserie. Le fait nouveau aujourd'hui, c'est cette effervescence autour de tous les métiers liés à la bière.
Une boisson qui jouit aujourd'hui d'une image haut de gamme. Certains restaurants étoilés proposent même une carte des bières artisanales désormais associées à la gastronomie.
Voilà, on aura appris qu'un biérologue s'appelle le zytologue. On n'est pas venu pour rien. À la vôtre, Ali Nazdarovie, comme on dit en russe.
Merci Sébastien.